Hey Philippe, c'est pas tous les jours que le grand patron du Canadien de Montréal sort de sa tanière pour venir parler aux journalistes, en tout cas pas dans des entrevues, disons en particulier avec un média. Et là, il le fait avec Alexandre Pratt de la presse.
Oui, Alexandre Pratt et Guillaume Lefrançois, une entrevue super intéressante ce matin. Écoute, je retire trois éléments de cette entrevue-là, Patrick. D'abord, le premier, c'est l'appui total et entier de Jeff Molson à Marc Bergevin. Il lui a rendu un hommage clair, un hommage net en disant que il avait accompli un travail exceptionnel au cours des dernières semaines pour améliorer l'équipe. Et il a même expliqué les insuccès des dernières années. Tu sais comment on peut parfois réinventer un peu l'histoire. Histoire, il y a eu des années difficiles pour les Canadiens, mais là, c'est comme si Bergevin, au lieu de s'être trompé dans ces années-là, avait plutôt fait preuve de patience pour dégager de l'espace sous sa masse salariale et attendre le bon moment, et c'était cette année, pour atteindre le maximum qui est permis par la Ligue nationale. Bon, je ne suis pas convaincu que ça s'est vraiment... que le plan était aussi clair que ça, parce qu'il y a eu des années vraiment très décevantes pour le Canadien, puis si on avait réglé certains problèmes en dépensant un peu plus, peut-être qu'on aurait réussi à aller plus loin. Je pense notamment à tout le problème du gardien réserviste là, qui perdure depuis des années, puis là, on s'est enfin décidé à le régler. Mais cela dit, pour Bergevin, quand il lit ça ce matin dans la presse, ça doit être très réconfortant pour lui parce que il va amorcer l'avant-dernière année de son contrat avec la prochaine saison. Et c'est son deuxième contrat consécutif de 5 saisons. Et on sait là, généralement que dans le sport professionnel, autant pour un directeur général que pour un entraîneur, tu ne veux pas leur laisser amorcer une saison alors qu'il reste seulement une année à leur contrat. Parce que là, tout le monde le sait dans l'équipe, les joueurs le savent, et ça fragilise autant l'entraîneur que le directeur général. Alors, je pense que si le Canadien a une saison adéquate et participe aux séries éliminatoires là, dans ce qui aura lieu de saison 2021, on ne sait pas exactement encore quelle direction ça va prendre. Je pense qu'à ce moment-là, Bergevin sera en bonne position pour renouveler son contrat. Dans le cas contraire, par exemple, Molson dit lui-même que les attentes sont élevées. Alors, il va falloir que son plan fonctionne, il va falloir qu'il y ait des résultats.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce que le président a dit à propos de l'importance de repêcher des francophones à talent égal?
Ben, ça m'a beaucoup irrité ce qu'il a dit, Jeff Molson, là-dessus. Je pense que la question lui a été posée, elle est très claire. La question, c'est est-ce que le Canadien devrait cesser de dire qu'à talent égal, il va toujours choisir un joueur québécois? Et il a répété, Jeff Molson, que oui. Il dit il dit à talent égal, il faut choisir la personne de chez nous. C'est important pour notre culture, c'est important pour notre équipe. Il faut absolument continuer de le dire. Le dire, Patrick, c'est une chose, mais il faudrait le faire aussi. Et ça, le Canadien n'a pas d'excuse. Tu sais, le Canadien et Marc Bergevin nous ont souvent expliqué combien le repêchage, là, c'est très difficile. C'est difficile de prévoir comment un jeune de 18 ans va se développer. Et tu le sais peut-être un peu plus pour les 3-4 meilleurs, là, les 3-4 qui vont partir au début du premier tour. Mais pour les autres, quand tu es repêché en deuxième, troisième, quatrième ronde, c'est un peu une loterie. Tu sais, est-ce que le jeune va se bien se développer, oui ou non, on ne le sait pas vraiment. Mais comment se fait-il que le Canadien, lui, semble toujours savoir que celui qui n'est pas Québécois va mieux se développer que le Québécois? Parce qu'il n'en repêche jamais dans ces rondes-là. Alors, tout à coup, il faut bien qu'il y ait une raison. Ça veut dire donc qu'il juge qu'il n'a pas le talent égal. Pourquoi il n'a pas le talent égal, le joueur québécois, rendu en troisième ronde?
Je peux tenter une explication. Vas-y. Tu sais, on en a parlé. Qui m'a parlé de ça? Je ne sais pas, là, mais je pense que c'est toi ou Mario, là. Dans l'esprit de plusieurs recruteurs, les joueurs du Québec évoluent dans une ligue qui est moins forte. Donc, j'imagine que quand ils évaluent les joueurs, si un joueur a compté, je sais pas moi, 25 buts dans l'Ouest, mais pour eux, ça vaut 30, 32, 35 buts au Québec. Donc, à talent égal, tu sais, ils vont toujours, bien souvent, là, si c'est pas le flagrant, ils vont y aller avec quelqu'un qui n'est pas d'une ligue du Québec.
C'est ça. Alors, il les laisse aller à Tampa Bay, puis Tampa Bay gagne une Coupe Stanley, puis tu as deux Québécois qui lèvent la Coupe Stanley, des gars qui n'ont pas été choisis en première ronde, mais à Tampa Bay, on a décidé de faire confiance à des Québécois. C'est ça qui est choquant. Puis quand j'entends Jeff Molson tourner encore un peu autour du pot de cette question-là, puis dire oui, ça demeure notre politique officielle qu'à talent égal, on choisit un Québécois, moi, je trouve qu'on vend un concept publicitaire, mais on ne vend certainement pas la réalité, parce que le comportement du Canadien, à mon avis, depuis depuis 4 ans maintenant, c'est inexcusable. Et quand je vois que Trevor Timmons, quand il est un peu mis au banc des accusés, si tu veux, sur ce dossier-là, se transforme un peu en victime en disant que ça le choque quand on dit ça à son propos, j'ai seulement le goût de répondre, ben, commence à repêcher des Québécois, mon ami Trevor, puis ça va régler en partie le problème.
OK, M. Molson a aussi parlé des finances du club, des finances de l'industrie du hockey, puis c'est assez clair que s'il n'y a pas bientôt des spectateurs dans les arénas, ça va être difficile pour les clubs.
Oui, ça va être difficile. Ils visent peut-être 4000 spectateurs là, au début, peut-être des gens qui pourraient venir d'une bulle familiale. C'est un autre aspect très intéressant de l'article d'Alexandre Pratt et de Guillaume Lefrançois. Mais tu sais, tout ça illustre aussi à quel point on est en territoire inconnu pour la saison 2021. Tu sais, prends l'Association nationale de basketball, par exemple. Eux aussi, c'est à peu près on suit à peu près le même calendrier que la Ligue nationale de hockey. Au début, là, je te dirais, il y a à peu près un mois ou deux, là, ils pensaient peut-être commencer la saison le 25 décembre, le jour de Noël, parce que historiquement, le jour de Noël, il y a toujours deux ou trois gros matchs de la NBA à l'affiche, puis c'est un grand événement télévisuel. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer cette saison-là. Là, après ça, ils ont dit, non, c'est trop tôt, on vise plus le 1er janvier. Et là, c'est plus le 1er janvier dans la NBA qui est visé, c'est le 18 janvier. Pourquoi le 18 janvier? Parce que c'est la journée hommage à Martin Luther King. Puis on dit que ce serait peut-être une belle occasion pour lancer la prochaine saison, profiter de cette journée-là. Mais au-delà de ce plan-là, qui est super, super le fun, il faut regarder les dates. Là. Au début, on parlait du 25 décembre, après ça, du 1er janvier, puis là, on est rendu au 18 janvier. Dans la Ligue nationale de hockey, on parlait du 1er janvier. Est-ce qu'on va véritablement être capable d'aller de l'avant à ce moment-là? Parce que si t'es pas capable de mettre des gens dans les estrades, ça va être très difficile. T'sais, je comprends Jeff Molson qui dit qu'il souhaite pouvoir, au début, attirer 4000 spectateurs, mais rappelle-toi ce que François Legault a dit la semaine dernière, je pense, tu sais, avant qu'on voit des grands rassemblements publics intérieurs au Québec, ça va prendre encore beaucoup de temps. T'sais, c'est ça la réalité aussi. Alors, je pense que ça va être difficile. Puis moi, je pense que la Ligue nationale devrait être prudente. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer au hockey en plein été. T'sais, ils ont commencé les séries éliminatoires au mois d'août, camp d'entraînement, nouveau camp d'entraînement en juillet. Puis finalement, ça a plutôt bien marché. Les gens ont écouté les matchs. Alors, je pense que le risque, ce serait de commencer trop tôt, pas de commencer trop tard. On pourrait peut-être commencer en mars puis faire une saison plus courte, quitte à finir au mois d'août puis tranquillement se rattraper dans le temps quand on aura un vaccin pour retrouver un calendrier normal.
Très bien. Mais Philippe, écoute, tu nous parleras dans le tour de table de 16 heures de ces sosies qui ont pris des tests antidopage, pour des haltérophiles.
On pensait qu'on avait tout vu à Sochi en 2014, mais on a encore des surprises dans le sport.
La tricherie très imaginative. OK, ouais. 15h32, merci Philippe, on te retrouve. Et après la pause, on va parler musique avec Mme Beauchamp.